Je suis féministe sur Radio B. Je suis féministe, une expression que l'on peut utiliser au quotidien, dans sa vie privée, mais aussi au travail. Si, si, essayez, vous verrez. Mon invité du jour a testé et ça a marché. Je suis féministe. Patricia Medeviel, bonjour.
Bonjour.
La question pour démarrer cette interview à chaque fois, c'est: est-ce que c'est facile pour vous de dire « je suis féministe » ?
Alors, je vais être très honnête, c'est plus facile aujourd'hui de le dire qu'hier.
Qu'est-ce qui a changé ?
Je pense que c'est le fait que les femmes ont libéré la parole quand même. La parole s'est libérée, on a gagné des droits nouveaux dans l'entreprise. Voilà, tous les mouvements qu'on a vus ces dernières années ont vraiment permis de libérer cette parole et d'assumer d'être féministe.
Aujourd'hui, ça voudrait dire quoi pour vous le féminisme ? Une définition ?
Rechercher l'équité. Voilà, l'équité dans les droits. L'équité des droits, parce qu'il me semble qu'on a encore à gagner des droits pour être à égalité avec les hommes, notamment dans le travail. J'appartiens à une organisation syndicale et donc je me base essentiellement dans le cadre professionnel pour ouvrir des négociations aussi bien sur l'égalité salariale que sur les déroulements de carrière, ces fameux plafonds de verre et parois de verre, et pour notamment aussi essayer d'avoir des négociations sur la protection des femmes contre les violences sexistes, enfin le harcèlement sexiste et les violences sexuelles.
On va en reparler, mais en préparant cette interview, on s'est eu au téléphone et vous m'avez expliqué que votre maman vous a élevé seule. À quand remontent vos premiers souvenirs à vous de questionnements autour du fait d'être une fille ou une femme ?
Ah, ça c'est... Ça n'a pas été si soudain. Je veux dire, effectivement, j'ai été élevée par ma maman et ma grand-mère, mon frère aussi d'ailleurs. Et pour la petite histoire, maman s'était séparée dans les années 70, ce qui n'était pas simple à cette époque-là. Et donc, maman est partie avec mon frère et moi, sans formation, sans diplôme, sans rien, même pas le permis de conduire. Mais elle a assumé ce choix et elle sait, je ne l'ai jamais vue se plaindre sur la décision qu'elle avait pris. Et je pense qu'elle a fait sa propre révolution dans le sillage donc de ces collectifs de femmes qui s'est débattu pour notre émancipation dans les années 68, enfin 60 en tout cas. Et je pense que ça a été ça, sa propre révolution. Et donc j'ai été élevée devant une femme avec des femmes qui étaient autonomes, qui étaient émancipées, et surtout autonomes financièrement, qui devaient rien à personne. Et donc j'ai grandi avec ça comme modèle. Et donc c'est vrai que dès mes 18 ans, donc j'ai quitté l'école très tôt, mon premier acte, j'avais envie de dire, d'émancipation et d'autonomie, c'était de me payer mon permis de conduire, parce que voilà, c'était un signe de liberté. Et puis après, je n'ai jamais cessé de travailler, parce que maman a quand même bien galéré. Donc j'ai dit, je n'arrêterai jamais de travailler, parce que je ne voulais pas être dépendante financièrement d'un homme. Et malgré l'arrivée des enfants, je n'ai pas arrêté de travailler. Alors bon, après, c'est moi, c'est ma vie, c'est mes repères. Mais du coup, voilà, c'était quand même... Maman, c'était un modèle quand même, voilà, de ne pas se plaindre et de dire « je suis partie, je vais assumer l'éducation de mes enfants ».
Alors le travail, c'est important. Dans les années 80, vous rejoignez la SNCF. Oui. À l'époque, 3% de femmes dans l'entreprise. Comment vous décririez l'ambiance ?
À la production. Ouais. 3% de femmes à la production. Les femmes étaient essentiellement dans les postes administratifs. Ouais. Et donc, dans les années 80, la SNCF souhaitait donc développer sa branche commerciale. Et donc, on a été des milliers de jeunes femmes. J'avais à peine 20 ans quand je suis rentrée à la SNCF. Et effectivement, choc en arrivant, parce qu'une entreprise faite par des hommes pour des hommes, il n'y a pas de formation pour devenir cheminote. Et en même temps, une entreprise dans laquelle je me suis sentie bien, curieusement, même s'il y avait des combats à mener. Je vous donnais comme anecdote encore le fait que nos sanitaires n'étaient pas séparés et qu'il n'y avait même pas une poubelle, il n'y avait pas de miroir, rien n'était fait pour nous, absolument rien. Les vestiaires étaient communs. Et donc, je pense que toutes les femmes qui sont rentrées dans cette génération ont vraiment travaillé et œuvré à apporter une vision différente de ce travail, déjà, et puis des relations autres entre hommes et femmes. Ça a pas été... Bon, il y a des choses qui étaient absolument anormales, des comportements d'hommes qui étaient borderline à cette époque-là, mais sur la vieille génération. Avec la nouvelle, les choses se sont quand même améliorées. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis que les choses se sont quand même nettement améliorées.
Comment ça s'est passé? Comment ça s'est traduit? Comment vous avez pu mettre en place ces avancées pour les femmes?
Par le biais du syndicat. Par le biais du syndicat, donc en même temps que je suis rentrée à la SNCF, j'ai croisé quand même le chemin de la Fédération des cheminots CGT, fédération à laquelle j'appartiens toujours, et j'ai jamais regretté mon engagement syndical à la CGT, et donc qui déjà œuvrait pour l'égalité entre femmes et hommes, que ce soit par le salaire, que ce soit par le déroulement de carrière, que ce soit par les conditions de travail. Et donc, par ce biais-là, par le fait que j'étais déjà déléguée du personnel, eh bien, j'ai œuvré vraiment à mon niveau, mais à chaque fois que je pouvais essayer de faire avancer quelques revendications, bah, je ne me privais pas, notamment pour obtenir quand même la possibilité d'organiser le service pour emmener nos enfants à la rentrée des classes, par exemple.
Et les années 80, c'est les années Mitterrand, Parti Socialiste. On imagine plutôt des avancées pour les droits des femmes, mais finalement, en faisant des recherches sur les droits des femmes dans le travail, j'ai remarqué que la loi égalité sur l'égalité salariale, homme-femme, elle date de 2006.
Oui. Si on reprend toutes les lois, il y en a eu, je crois qu'on en est à la 10e loi qui a été mise en place pour l'égalité et qu'on est toujours sur cette question-là. Même si elle avance dans certaines entreprises, reste encore, j'ai envie de dire, tout le secteur, par exemple, du lien social ou du soin, où là, on est vraiment, ou la grande distribution, où là, c'est vraiment la catastrophe sur l'égalité salaire. Mais je pense aussi que les femmes doivent prendre cette question à bras-le-corps. Les organisations syndicales le dénoncent, organisent des formations, mettent en place des guides de négociation dans l'entreprise, mais je pense vraiment que les femmes doivent se saisir de ces questions-là et les porter dans l'entreprise et aussi bien sur la place publique.
Voilà. Et à votre avis, pourquoi est-ce que les femmes ne se saisissent pas plus de ces engagements? Parce qu'elles sont concernées au premier plan?
Difficile quand même, quand on est éloigné comme ça de la lutte, voilà, et qu'on est, éloigné de l'engagement, etc. Je pense que le chemin, il n'est pas si simple que ça pour arriver à se dire « je vais me battre ». C'est souvent des femmes seules, monoparentales, avec encore une fois, on est quand même championne des temps partiels, quand même, il ne faut pas l'oublier. On est dans les plus bas salaires, plus de 60% des femmes sont au SMIC. Ça veut dire aussi conséquence sur la retraite, avec des 40% de différence avec les hommes. Sur les salaires, on a 26% quand même, c'est pas rien. Mais je pense que là aussi, il faut que la parole se libère et que qu'on puisse être l'acteur pour pouvoir provoquer ce débat avec les femmes et qu'elles s'emparent vraiment de ces questions que je peux faire bouger les choses si je me fédère et si vraiment je me dis on va y arriver, quoi, comme nos aînés ont pu se le dire. Alors c'est pas simple parce qu'encore une fois, ben voilà, c'est les journées de travail, c'est je cours, je vais récupérer les enfants, je vais faire les courses, j'assure l'éducation, etc. Et c'est pas si simple que ça de se prendre encore un temps pour aller militer, pour aller assister à des débats, des réunions, ne serait-ce que voilà, s'informer par le biais de la PROPA, etc. Bon, c'est pas simple, mais voilà, je me dis qu'avec cette crise, la crise sanitaire a quand même mis en exergue que tous ces métiers du soin, du lien, que ce soit les soignants, que ce soit les aides à domicile, que ce soit les assistantes maternelles, que ce soit toutes ces actrices qui sont au service du soin, du lien et de la perte d'autonomie, etc., quand on regarde les salaires, ça fait pleurer quand même. Hein. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et en tout cas, à mettre sur la place publique. Il faut absolument revaloriser ces métiers, mais aussi bien par le biais financier que par le déroulement de carrière. Voilà. Et puis, que ça ne reste pas des métiers féminins. Pourquoi ? Qui interdit qu'un homme soit dans le soin ? Il y a bien des infirmiers. Pourquoi il n'y aurait pas des aides à domicile ? Pourquoi il n'y aurait pas des assistants maternels ? Il y en a, mais c'est à la marge. Voilà. Et au même titre que... Je suis bavarde, hein, par contre.
Et dans l'autre sens aussi, les postes à responsabilité, oui, sont plus menés par des hommes.
Exactement.
Les directeurs, les cadres, c'est plutôt des hommes qu'on retrouve.
C'est ça, exactement. Il y a un moment donné, dans les déroulements de carrière, on voit bien qu'il y a ce fameux plafond de verre parce qu'on suppute, parce qu'il va y avoir effectivement, à un moment donné, une femme qui va dire « j'ai envie d'avoir des enfants ». Et donc, on la punit pour ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment discriminant sur ces postes à responsabilité, comme vous le dites, ou alors ça veut dire qu'il faut vraiment sacrifier sa vie personnelle, et ça, on est au 21e siècle quand même, donc il y a des choses, les choses doivent bouger, mais elles doivent bouger aussi, j'ai envie de dire, sur ces métiers. Moi, il y a quelque chose qui m'agace quand on dit qu'il faut féminiser les métiers. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut démasculiniser les métiers. Pourquoi les féminiser ? On nous fait encore porter ces responsabilités, alors que par le biais de l'amélioration des conditions de travail, on peut très bien aujourd'hui avoir des avancées dans certains métiers technologiques qui vont bénéficier au bout du bout aux hommes. Et donc tout le monde en sera satisfait et gagnant.
Le rôle du syndicat, vous l'avez dit, il est important pour vous, oui. Il est essentiel. On a aussi parfois une image assez masculine du mouvement syndicaliste. On imagine plutôt des hommes, souvent les porte-paroles ou les représentants sont des hommes. Comment on se fait sa place dans ce milieu ?
On se l'a fait. Alors en plus, j'ai commencé à militer dans un milieu d'hommes.
Bah ouais, donc double casquette, la SNCF avec peu d'hommes, oui. Et puis le syndicat quand même plutôt masculin.
Et plutôt musclé, mais c'était des rapports virils, j'ai envie de le dire comme ça, parce que c'était un peu le cas, c'était assez... écoutez, alors je ne sais pas si c'était ma personnalité, mais moi je m'y suis sentie bien, c'est vrai qu'il faut faire sa place, voilà. À ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui les choses se sont nettement arrangées, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes et qu'elles sont quand même engagées sur divers sujets. D'ailleurs, il y a la commission Femmes Mixité, il y a tous ces collectifs qui se sont mis en place, donc les femmes ont un espace quand même pour elles, j'ai envie de le dire, si elles ont envie de discuter entre elles, il existe cet espace. Et oui, ça n'a pas toujours été facile, mais en même temps, quand on croit à ce qu'on fait, je pense que voilà, il faut oser dire les choses, bousculer l'ordre établi et ça passe. Et ça se passe bien.
Vous êtes aussi connue pour avoir organisé de nombreuses manifestations à l'occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Quels sont les événements ou les moments qui vous ont marqué ?
Ma rencontre avec Pinard Sellec a été vraiment un moment assez fort. Voilà, donc une personnalité que je connaissais à travers ses écrits, à travers son engagement, son emprisonnement, sa défense dans son pays, ses combats contre la discrimination, que ce soit sur les femmes, sur l'homosexualité, sur toutes ces différences et ces attaques discriminantes. Et du coup, ça a été vraiment une rencontre forte. Elle a accepté de venir une journée entière donc, sur notre territoire. Ça a été le passage par les services, par un service social, celui des Veynes, qui a accepté de nous accueillir, enfin de l'accueillir, avec voilà, un moment très fort avec les bénévoles de ce centre social. Ensuite, la rencontre avec des écoles sur l'ouvrage, son dernier ouvrage qui était un conte pour enfants sur la notion de la liberté de l'enfant et le respect de l'enfant. Pareil, un moment assez fort. Et puis, le final, le soir, au Vox, où on a fait carton plein avec la présence donc, de Bernard Thibault, qui était donc membre de l'Organisation internationale du travail. Ils se connaissaient. Et puis, Sylvie Monchantre, qui était donc sociologue. Et là, ça a été un moment fort parce qu'elle nous a raconté quand même son histoire, qui n'a pas été simple, et une femme qui, malgré les blessures qu'elle a eues, malgré son emprisonnement, avait toujours cette flamme en elle, et bon, on ne peut que se dire, allez, on y va, on continue à se battre, c'est des femmes qui nous portent.
L'année 2020 a été un peu ralentie, hein, on est tous conscients de ça. Aujourd'hui, vous, en tant que syndiqué, toujours ?
Bien sûr !
Ce serait quoi, vous, vos combats, maintenant ?
Aujourd'hui, toujours sur l'équité. Voilà. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, ça se joue sur la scène sociale. Voilà, la scène sociale. Et ce que veulent les femmes aujourd'hui, c'est pas de prendre le pouvoir, c'est pas ça. C'est d'être respectées, de ne plus être humiliées, de ne plus être agressées, violées, etc. Et de se dire qu'il faut qu'on prenne encore une fois la parole. Et je pense que tous ces mouvements, encore une fois, hashtag MeToo ou hashtag inceste, comme on vient de le voir, permettent de libérer la parole et de se poser et de se dire stop, ça suffit maintenant, ça suffit. Et je pense que sur ce terrain-là, les femmes ont vraiment, enfin je veux croire que les femmes vont se fédérer à plus grande ampleur et vont porter ces exigences. Ça ne peut être qu'une exigence et ça ne peut être que par le biais du travail. Parce que si on regarde bien, hashtag MeToo, c'est quand même partie du travail. Ce sont des actrices qui dénonçaient quand même un lien de subordination avec le réalisateur. Donc on est bien dans le travail. Et aujourd'hui, Il y a des chiffres quand même alarmants de la DARES ou de l'INSEE. Sur 170 viols par jour, 8 ont lieu dans les entreprises. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Donc, je pense que les femmes doivent vraiment prendre la parole et s'organiser. Donc, il y a ce sujet-là que je porte, et puis celui de l'égalité salaire. Voilà, je trouve absolument insupportable de ne pas avoir l'égalité salaire aujourd'hui. Alors, il y a une loi, oui, il y a une loi. Il y a une loi, mais comme on part du principe que c'est égalité salaire, égalité travail, on n'est pas... les femmes ne sont pas dans tous les postes. La preuve, c'est ce qu'on venait de se dire à l'instant, dans les métiers dits fortement féminisés, très peu d'hommes, donc on peut se permettre de baisser les salaires. Souvent des femmes qui sont monoparentales, donc un besoin de travailler important, et notamment dans la grande distribution, c'est là aussi où il y a le temps partiel qui est vraiment développé, et donc des femmes qui n'ont que ce travail, et elles ont besoin de ce travail pour vivre et élever leurs enfants, donc sauf qu'à un moment donné, il va falloir aussi quand même prendre le temps de se battre, voilà, et je pense vraiment, je suis convaincue que organiser les salariés dans l'entreprise est un vrai moyen pour essayer de faire bouger les curseurs dans l'entreprise, voilà, à partir de négociations, à partir du guide de négociation donc, qu'on a mis en place sur comment négocier, par exemple, aller à la négociation de l'égalité salaire, mais aussi la revalorisation, mais aussi vérifier que les postes sont à égalité quand il y a du déroulement de carrière, enfin, etc. Tous ces sujets, je pense qu'il faut continuer à les porter. En tout cas, moi, ils me touchent.
Patricia Medeviel, merci.
Merci à vous.
Le ciel me coule dessus au bord de la falaise. Je marche avec mes fantômes, leur raconte mes journées. Mes journées qui se résument à monter la colline et à nourrir mes moutons. Certains soirs, Steinun et moi, on s'assoit près du feu et elle me raconte des histoires de l'Islande, des histoires de magie et de renards qui volent les bébés dans leur berceau. Des histoires d'esprits d'enfants qui attendent les voyageurs dans les caves sur la plage de Vik, les attirent avec des chansons. J'en ai des frissons dans le dos et je me couche frigorifiée. Je rêve à ma grand-mère souvent, à ma mère parfois, le même visage aux cheveux qui noircissent. Ma grand-mère blonde, ma mère châtaine et moi corbeau. Comme si la lumière nous quittait peu à peu, comme si on cherchait à se fondre avec les plages de Vik, à disparaître dans les cavernes. Un extrait du roman Les Falaises de l'autrice québécoise Virginie de Champlain et la douce voix de Safia Nolin est le titre clair. À la prochaine!
Te vois dans le noir, j'aime pas ce que je vois. Tu me vois dans le noir, t'aimes pas ce que tu vois. Ouah, j'aime ça quand ça mord. Ouah, j'aime ça quand ça porte.